présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Philippe Orion à l'occasion de la parution de sa monumentale histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours aux éditions Les Belles Lettres. Alors après un retour sur les débuts de l'affaire Dreyfus, la semaine dernière, nous allons revenir donc là où nous en étions, Philippe Auriol, mais aussi sur le retentissement et sur les traces que l'affaire Dreyfus a laissées dans la société française. Vous travaillez également, je le signale, depuis 10 ans, un dictionnaire biographique et géographique de l'affaire Dreyfus en 3 volumes. Alors donc, pour les auditeurs, nous en étions arrivés à ce moment précis où l'affaire Dreyfus bascule, c'est-à-dire nous sommes à peu près en 1898. Le lieutenant Picard, le nouveau chef du service des renseignements, acquiert la conviction que le véritable auteur du bordereau est un certain Esterhazy. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Alors à partir du moment où il a fait cette découverte, il mène une enquête très sérieuse parce qu'il n'est pas question de s'avancer à la légère et il en fait part assez rapidement à ses supérieurs qui sont ceux dont nous parlions la dernière fois, c'est-à-dire les deux généraux Gonse et de Bois d'Effre. Et là effectivement, il va se passer un problème, c'est qu'il n'est pas question de revenir sur la condamnation de Dreyfus pour plein de raisons. La première c'est qu'ils ne peuvent pas, ils se sont trop engagés et ils ne peuvent pas revenir en arrière, c'est une évidence. Et puis surtout il y a une sorte de pacte, de serment qui a été passé dans le but de protéger Mercier, parce que l'illégalité du procès, la transmission du dossier secret, qui est une chose qui n'est absolument pas recevable en droit, ne doit pas se savoir. Et donc il va falloir enterrer cette affaire. Donc on va protéger Esterhazy, et là c'est un épisode qui n'en finit plus, ça fait au moins 400 ou 500 pages du livre, des correspondances envoyées dans tous les sens pour protéger Esterhazy, et surtout on va perdre Picard. L'idée c'est que naturellement il faut disqualifier définitivement Picard. Donc on en est là à ce moment-là, et la chose qui va se passer quand même, c'est que Picard a très peur, et là Dreyfus n'est plus du tout intéressant pour lui, il a peur personnellement. On l'a exilé en Tunisie, auprès de la frontière, à un endroit où il a toutes les chances de se faire tuer, etc. Il se dit « je vais avoir des problèmes ». Et en fait, il a l'opportunité une fois de pouvoir retourner en France et il en parle à un de ses amis de ses craintes, de ce qu'il a découvert, sans tout donner, parce que c'est vraiment un militaire très respectueux, c'est-à-dire qu'il ne va pas livrer de secrets. Et il dit « si jamais j'ai des problèmes, il faut vraiment que tu livres en fait toutes les informations ». Et en fait, cet ami qui s'appelle Le Blois, qui est un avocat, qui est son ami d'enfance, va livrer l'information au vice-président du Sénat, Scherer Kestner, qui lui-même va en parler à quelques amis. Et là, l'affaire va commencer, effectivement, la deuxième affaire Dreyfus, comme on dit, c'est-à-dire l'affaire politique, va commencer à apparaître.
Alors, à ce moment-là, Esterhazy a déjà été acquitté?
Alors non, Esterhazy va passer en procès, naturellement, parce que Mathieu Dreyfus va découvrir de son côté, il n'est informé par personne, hein, il va faire la découverte tout seul, selon une histoire que là, je n'ai pas le temps de raconter, mais qui est assez extraordinaire, et c'est ce qui fait tout l'intérêt de l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il y a des rebondissements, on dirait un roman, quoi. Et donc, Mathieu Dreyfus va dénoncer Esterhazy comme étant le véritable traître à la place qui aurait dû être condamné à la place de son frère, à la place duquel son frère a été condamné. Et il va y avoir un procès, et naturellement, il va être acquitté, ce qui est terrible, puisque c'est la deuxième condamnation de Dreyfus, et surtout, on le sait, en droit, on ne peut pas revenir sur un procès qui a déjà été fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été acquitté pour un crime qu'il a commis ne peut pas être rejugé pour ce crime. Ça veut dire que l'affaire Dreyfus est finie à ce moment-là. Il n'y a plus aucune raison qu'il y ait une affaire Dreyfus. Et c'est là où effectivement Zola va tout changer.
C'est-à-dire à 2 jours, c'est-à-dire que là les choses s'enchaînent
ouais.
Très rapidement.
Alors c'est plus que 2 jours en fait, parce que il faut ça c'est aussi des quelques petits trucs que j'ai retrouvés dans mes recherches. C'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'à partir du moment où Esterhazy est acquitté, donc là on est à la fin de janvier, Zola, emporté par sa fougue et son indignation, écrit un article. En fait, pas du tout. L'article, il est prêt depuis quelques jours. Parce que tout le monde sait qu'Esterhazy va être acquitté. Et en fait, j'ai retrouvé une interview de Zola à la presse qui date de 1 mois avant, dans laquelle il dit « si jamais l'affaire Esterhazy ne tourne pas comme elle doit tourner, nous passerons au civil ». Et en fait, passer au civil, c'est quoi? La seule façon de rouvrir l'affaire Dreyfus, puisqu'elle est fermée en droit maintenant, c'est effectivement de se faire faire un procès de presse. Donc en fait, il va attaquer dans la presse l'état-major avec une violence extrême que d'ailleurs la plupart des Dreyfusards prendront très très mal. Et là, le camp Dreyfusard va un peu scinder à ce moment-là, parce que l'acte est vraiment trop révolutionnaire. Mais seulement le coup de génie de Zola, c'est d'obliger en fait tout le monde à revenir sur l'affaire Dreyfus, parce que le gouvernement ne peut pas laisser les insultes que j'accuse contient.
Alors, c'est... fameux J'accuse, est publié le 13 janvier 1998 dans l'Aurore. Vous avez, je l'ai dit, beaucoup travaillé sur les archives, et notamment vous avez épluché littéralement la presse de l'époque. Comment on peut présenter l'Aurore, enfin, dans ce portrait, voilà,
l'Aurore très composite. L'Aurore est un journal républicain. Enfin, avec une grande figure qui en est pas le directeur, mais qui en est une sorte de rédacteur en chef ou de directeur de publication, qui est Georges Clemenceau, qui à ce moment vit quand même pas mal de difficultés parce que son nom a été mêlé au scandale de Panama, et donc il a perdu le rôle politique qu'il était le sien, il n'est plus à la Chambre. Il s'occupait d'un journal qui s'appelle La Justice, et un jour, un de ses amis vient lui proposer de créer un nouveau journal, qui n'est pas du tout un journal Dreyfusard, mais qui est un journal républicain qui deviendra par la suite Dreyfusard. Donc
à ce moment-là, il n'y a pas de journal Dreyfusard. Si, il y en aurait déjà.
Ah non, à l'époque, il y en a... Ouais. Ah, si, il y en a un, c'est Le Figaro. Qui est vraiment Dreyfusard et qui va effectivement publier la plupart des premiers documents. Mais le problème, c'est qu'il va y avoir une campagne de désabonnement absolument incroyable qui fait que Le Figaro va officiellement dire qu'il renonce. Et le 18 novembre, va tout arrêter. C'est-à-dire qu'il deviendra anti-Dreyfusard d'un jour à l'autre pour ne pas perdre tous ses clients. Voilà, mais sinon, non, il n'y a pas de toute façon, il n'y a pas de Dreyfusard ou presque à cette époque-là. Oui. C'est vraiment une poignée, parce que pour quelle raison peut-on douter, a priori, de la culpabilité de Dreyfus? C'est une certitude.
J'accuse va provoquer donc un véritable basculement dans l'opinion publique. Et là, c'est un véritable déchirement au sein de la société française.
Alors, on a un peu abusé là-dessus. Ah. C'est-à-dire qu'effectivement, il
en
va...
En tout cas, dans la presse, extraits qu'il y a dans votre livre montrent une violence...
Alors, la violence est là, mais c'est la presse de l'époque aussi. Hein. La loi de 1881 essaye de la contrôler, mais en tout cas, on lit un journal de l'époque. On peut aller s'amuser à faire ça sur Gallica, la BNF en ligne, et il n'y a aucun article aujourd'hui qui passerait, quoi. C'est absolument impossible. Il y a des lois, alors heureusement ou pas parfois, en tout cas sur le propos antisémite, pour moi heureusement, mais même dans la manière d'attaquer une chanteuse parce qu'on n'aime pas sa manière de chanter, enfin c'est vraiment, on est dans c'est vraiment d'une violence extrême la presse à cette époque-là. On est vraiment dans une presse d'opinion, et c'est justement l'affaire Dreyfus qui va petit à petit transformer la presse d'opinion en presse d'information. Avec toutes les enquêtes qui vont être menées, etc. Mais à l'époque, la presse est vraiment en fait une conception très pamphlétaire en fait du journal. Et derrière Zola, il y a un certain nombre de gens effectivement qui vont se mettre à marcher, les fameux intellectuels. Alors le mot n'a pas été inventé, il existait depuis pas mal de temps déjà. Hein. Mais en tout cas, toute la question qui est la place du savant, la place de l'artiste dans la cité, etc. Et effectivement, on va voir ces gens sortir de leur laboratoire et de leur tour d'ivoire et venir participer à la vie de la cité. Donc ça, c'est une chose, mais on a donc une minorité de plus en plus importante, et chaque jour plus importante, de Dreyfusard. On a une immense majorité d'anti-Dreyfusard, parce qu'il n'y a aucune raison de faire de l'agitation, ça s'arrête là, c'est pas de l'antisémitisme, hein, c'est tout simplement ça. À côté de ça, il y a des antisémites. Et puis il y a quand même, et ça il faut bien le dire, et j'essaye de montrer ça, alors je regrette de l'avoir fait un peu trop rapidement, je trouve, une grande partie de la population qui n'en a rien à faire. Et qui est saoulé, en fait, c'est le mot exact, par cette affaire Dreyfus. Et je cite au tout début du livre la phrase d'un petit écrivain tiré de son journal intime, et voilà, c'est reparti avec l'emmerdante affaire Dreyfus. Et ça, c'est la réaction de beaucoup de gens, et surtout en province, à vrai dire. En tout cas, dans les campagnes.
Mais parce que, en fait, de 1898, c'est-à-dire l'apparition du J'accuse de Zola, jusqu'au procès qui va suivre,
à Rennes, voilà, en 1899, à l'été, la France ne parle que de ça.
Ouais.
La France ne parle que de ça. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus mobilise tout. Et comme effectivement, il y a sans cesse des rebondissements, que tout le monde veut la régler, etc., il va y avoir une succession d'épisodes. Il y en a à peu près une trentaine. Enfin, c'est complètement ahurissant. Et c'est pour ça que c'est une matière à travailler qui est absolument extraordinaire. Et qui fait que chaque nouveau rebondissement relance l'affaire. Donc on ne parle que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Et avec souvent des articles pour dire « il faut en finir ».
Et au cours de cette année, les deux camps vont s'affronter de plus en plus fortement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont aiguiser...
Ouais.
Oui.
Avec une méthode de propagande, parce que naturellement, chaque camp a quelque chose à défendre. Et donc, du coup, cette France qui s'en fiche se retrouve embringuée dans cette affaire. Donc, une propagande très, très forte par le livre et la brochure, plutôt du côté de Réfusard.
Oui, parce qu'il y a Anatole France, il y a Marcel Proust,
Ouais.
Lucien Hervé.
Ouais, encore Marcel Proust, franchement, n'a pas fait grand-chose. Voilà, il a signé une pétition.
Ce qui, pour lui, est déjà
c'est pas mal.
Un engagement.
Ouais, tout à fait, c'est clair. Mais voilà, mais effectivement, il est très visible aujourd'hui, donc comme Peggy, mais ce ne sont pas des Dreyfusards, en tout cas de premier ordre à cette époque-là. En tout cas, il est Dreyfusard, c'est sûr. Non, alors il y a ce système de pétition, il y a effectivement le livre et la brochure utilisés par les Dreyfusards, et ça c'est très intéressant parce qu'ils misent sur l'avenir en fait. Alors que les anti-Dreyfusards sont plus dans l'immédiat, et eux vont plutôt passer par la chanson, le placard, la carte postale, le journal. Par exemple, il y a je sais pas, une cinquantaine de chansons qui ont été faites sur l'affaire Dreyfus. Il y a des jeux, il y a un jeu de loi, c'est absolument extraordinaire. Il y a des petits personnages, des cannes, des pipes, c'est incroyable, quoi. Du papier à rouler, de cigarettes, des choses comme ça. Et surtout les meetings. C'est-à-dire que c'est la grande époque des réunions publiques. Et rien que pour les meetings de la fin de l'année 98, c'est-à-dire sur 4 mois, j'en ai répertorié, encore je ne les ai pas tous, près de 150. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des meetings à peu près tous les jours, voire plusieurs fois par jour, alors Dreyfusard, anti-Dreyfusard, etc. Et on est vraiment dans une propagande qui est très importante.
Alors sur le côté des anti-Dreyfusard, vous le disiez, tous n'étaient pas forcément antisémites.
Non.
Par contre, on a la Ligue de la Patrie Française,
oui.
Qui est dirigée en partie par Maurice Barrès, qui dénonce un complot judéo-maçonnique. Là, on est...
Oui, alors après, le problème, c'est que la Ligue de la Patrie Française... J'ai intitulé un chapitre « La Ligue des Poires » en reprenant une expression de Réfusard, parce que c'est un peu la Ligue des Poires, quoi. C'est-à-dire que c'est une sorte de conglomérat tout à fait informe de tas de gens qui n'ont rien à faire ensemble. Et d'ailleurs, la plupart des grandes figures vont démissionner assez rapidement. Et on a des gens qui sont des républicains réels, comme Lemaître, Jules Lemaître, qui en est le président. On a des nationalistes purs et qui sont des gens qui pensent à autre chose, comme Boris Barrès. On a... tous les futurs cadres de l'Action française, Pujot, Vaugeois, Maurras, etc. Et en fait, on a des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Et donc, on a plutôt quelque chose qui se veut très légaliste au départ et qui est simplement une affirmation patriotique dans quelque chose qui est très théologique, hein, comme façon de penser le monde, c'est-à-dire la patrie comme nouvelle religion un petit peu. Donc, qui est quelque chose qui peut passer, en fait. Mais on a des gens qui sont là pour en faire autre chose, réellement, c'est-à-dire pour essayer d'en faire réellement une arme de combat. Et dans l'esprit de Maurras, d'une façon claire, probablement le levier qui permettrait de faire basculer la République pour arriver en fait à ce qu'il appelle la voie royale, c'est-à-dire quelque chose qui permettrait de remettre les Orléans sur le trône de France. Donc on a des gens qui sont vraiment dans une optique qui est complètement putschiste, dirait-on aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est un conglomérat assez informe, comme le dreyfusisme d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas une sorte de dreyfusard, il n'y a pas une sorte d'anti-dreyfusard, il y a à peu près une trentaine de dreyfusismes différents. On peut être dreyfusard par sentimentalisme, par romantisme, par intérêt personnel. On peut être Dreyfusard par conviction, on peut être etc. etc. Il y a vraiment des cas de figure très différents. Et c'est pour ça que ces gens ne s'entendent de toute façon pas et qu'après,
voilà, c'est ça.
Ça explosera d'une façon absolument incroyable entre les grandes figures et Dreyfusard et anti-Dreyfusard aussi, parce que c'est valable aussi de l'autre côté.
Alors on va revenir à la fin de cette affaire. Donc cette fin qui commence en 99, c'est-à-dire si on résume, le nouveau ministre de la guerre, Godefroy Cavaignac, ordonne l'expertise du bordereau qui accuse Dreyfus, et on s'aperçoit qu'il s'agit d'un faux, fabriqué donc par le commandant Henri, lequel va se suicider peu après. Pourtant, en septembre 99, Dreyfus est à nouveau condamné à 10 ans de réclusion.
Alors, si vous permettez, juste une petite précision, je vais le faire très très vite. En fait, le bordereau ne pose pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où Picard commence à découvrir les choses, il faut absolument protéger une condamnation qui n'existe pas. Donc en fait, Henri, mais pas que lui, j'ai retrouvé par exemple énormément de faux de Gonse, et c'est hyper pratique parce que ces gens gardent leur brouillon. C'est-à-dire quand ils font des faux, ils gardent le brouillon qui permet de faire un faux. C'est vraiment formidable. Et ils les archivent. En plus, j'adore ces gens. Ils nous aident énormément. Et en fait, Henri va fabriquer plusieurs pièces fausses. Et ces pièces fausses sont données par le ministre comme les preuves de la culpabilité de Dreyfus lors d'une séance à la Chambre, qui va être votée à l'unanimité et affichée dans toutes les communes de France. Et en fait, Picard dit que cette lettre est un faux. Donc Cavaignac demande à ce que tout le dossier soit authentifié dans le but de prouver que Picard est un menteur. Et là, on s'aperçoit qu'une des lettres est un faux, suivant un truc sur lequel je discute un peu dans le livre, parce que la thèse qu'on nous a toujours officiellement donnée ne tient pas une seconde. Mais on n'a pas le temps de parler de ça. Mais en tout cas, il s'est sûrement passé autre chose. Et naturellement, Henri va être arrêté parce qu'il n'y a pas le choix. Henri va se suicider, on va lui suggérer de se suicider, on n'en sait rien, mais à vrai dire, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et inévitablement, à partir du moment où on sait que la condamnation n'a pas été obtenue par défaut, mais en tout cas qu'il y a des faux qui sont venus conforter le dossier pour conforter la condamnation, la révision s'impose. Donc il va y avoir une révision, ce qu'on appelle une cassation avec renvoi, c'est-à-dire que la cour de cassation casse, donc juge de la forme, renvoie vers un nouveau conseil de guerre, et naturellement, comment peut-on imaginer, comme le dit Zola dans J'accuse, qu'un conseil de guerre puisse défaire ce qu'un conseil de guerre a fait. Donc Dreyfus sera une nouvelle fois condamné à la donc comme traître, avec quand même cette peine tout à fait délirante assortie des circonstances atténuantes. Comment peut-on être traître et avoir des circonstances atténuantes? C'est un truc que j'arrive toujours pas à m'expliquer. C'est assez curieux. Enfin, la trahison, c'est la trahison.
Pourtant, donc après cette nouvelle condamnation,
Dreyfus est gracié. Ouais, Dreyfus est gracié puisque.
Mais toujours coupable, donc.
Bien sûr. Et il est obligé d'accepter cette culpabilité parce que c'est la seule façon pour lui de ne pas mourir. Sinon, il est reparti pour faire de la prison. Et la meilleure façon de se battre pour recouvrer son honneur, c'est d'avoir les moyens de le faire. En prison, il ne pourra pas le faire. Donc c'est parfait. Et naturellement, cette grâce, c'est quelque chose qui est prévu depuis très longtemps. Hein. C'est-à-dire que le but du jeu pour le nouveau ministère qui arrive, qui est le ministère de défense républicaine de Waldeck-Rousseau, c'est d'en finir avec l'affaire Dreyfus, ce que tout le monde veut. Et donc le meilleur règlement, en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'arriver à l'amnistie. C'est-à-dire que la culpabilité de Dreyfus avec circonstances atténuantes permet de contenter tout le monde. La grâce aussi, ok, les militaires ont gagné, à côté de ça, les Dreyfusards ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un Dreyfus libre. Maintenant, à côté de ça, on va tout effacer. Et c'est une loi d'amnistie qui va être votée qui fait que les véritables coupables, que tout le monde connaît, en fait, ne paieront jamais. Et avec même des choses aberrantes, Mercier, élu sénateur en 1900, qui aura à voter au Sénat la réintégration de Dreyfus. On en arrive à des choses qui sont complètement ahurissantes, en fait.
On le voit, cette détermination à se défendre depuis le début, Dreyfus va la garder, puisque lui, évidemment, cette amnistie ne le suffit pas, et il veut être réhabilité, ouais, et réintégré dans l'armée.
C'est un personnage hallucinant, Dreyfus. Enfin, c'est très drôle, parce que moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'affaire Dreyfus, j'étais à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire que je trouvais ce petit être falot et inintéressant. Je ne le trouvais pas à la hauteur, etc., mais je ne sais pas, j'avais trois lectures derrière moi et des a priori. Et en fait, en le découvrant, j'ai découvert un personnage ahurissant. C'est-à-dire déjà une force de caractère incroyable. Faut lire la biographie, la grosse biographie de Vincent Duclerc sur Dreyfus. On voit vraiment un héros, réellement. Et quelqu'un qui, effectivement, ne va jamais céder à la fatalité, à la résignation, et qui va jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, se battre. Avec même, j'ai retrouvé un petit truc tout à fait touchant où quand il est à l'île du Diable, le pain qu'il ne consomme pas, il le cache derrière une palissade pour que les gens qui travaillent sur la palissade puissent le manger, etc. Voilà, en plus, c'est un homme bon qui va plutôt aller vers le socialisme vers la fin de sa vie sous l'influence de Jaurès, etc. Enfin voilà, c'est un itinéraire vraiment très particulier. Et naturellement, Dreyfus va prendre en main complètement sa propre affaire, donc ça devient l'affaire de Dreyfus. Et il va obtenir, même si Jaurès l'y aidera beaucoup, à la cassation sans renvoi, c'est-à-dire que officiellement, et d'une façon définitive, et qu'on ne peut pas discuter de l'accusation contre Dreyfus, rien ne reste debout, comme dit l'arrêt de la Cour de cassation de 1906.
Donc c'est le 12 juillet 1906 que Dreyfus est réhabilité, réintégré dans l'armée. Qu'est-ce que cette affaire nous dit de l'antisémitisme en France, Philippe Auriol?
Alors, elle nous dit certainement pas ce qu'on en a fait, ce qu'on a voulu en faire, c'est-à-dire une sorte de situation... pré-vichiste. Alors voilà, ça c'est une certitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une histoire anachronique de cette manière-là, en essayant de trouver effectivement dans des phrases de l'époque qui sont insupportables parce qu'elles nous rappellent des choses que nous connaissons, quelque chose comme ça. Maintenant, à côté de ça, il est clair que si c'est un morceau de l'histoire de France, c'est aussi un morceau de l'histoire de l'antisémitisme. Et ça, c'est important. L'antisémitisme est là, il est latent, il est toujours là aujourd'hui, hein, il est utile à énormément de gens. Et c'est un moment, effectivement, où il a pu se révéler et où il a pu, pour la première fois, et ça c'est quand même quelque chose qu'un certain nombre d'historiens qui essayent à juste titre de relativiser ce qu'on a pu dire au sujet de l'antisémitisme vont un peu loin dans la, relativisation, c'est difficile à dire. C'est quand même aussi quelque chose qui, pour la première fois, l'affaire Dreyfus va permettre de faire de l'antisémitisme un fonds de commerce politique. C'est-à-dire quelque chose, on a des partis, on va avoir par exemple en 1898 un groupe antisémite à la Chambre qui va ouvrir la première session au crime moraux juif. C'est quelque chose qui est hallucinant dans la patrie des droits de l'homme. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même tout à fait important. Pas vraiment une recomposition du jeu politique, mais en tout cas une clarification du jeu politique qui va faire que l'antisémitisme, effectivement, ne va plus être simplement un sentiment, mais va être quelque chose qui peut amener quelque chose. Alors naturellement, il est par définition vide de fond et de sens, mais en tout cas, des programmes politiques, et il suffit de voir l'Action française, qui va effectivement tout fonder sur cet antisémitisme à travers son nationalisme intégral, mais à travers l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que c'est extraordinaire de suivre l'Action française, de la création du journal en 1908 jusqu'à la condamnation de Maurras pour collaboration. Ça commence avec des papiers sur l'affaire Dreyfus, et quelle est la dernière phrase de Maurras quand il est condamné en 45 ou 44, c'est la revanche de Dreyfus. C'est-à-dire que pour eux, effectivement, et pour une droite nationaliste intégrale, l'antisémitisme est un fondement. Et il suffit d'aller se balader sur un certain nombre de sites internet, puisqu'aujourd'hui, ces gens occupent l'espace. Alors, on ne parlera pas des gens qu'on connaît, plus ou moins comiques ou autrefois comiques, et des gens qui se sont mis dans l'édition par erreur, dont on parle actuellement beaucoup, et qui, effectivement, utilisent, eux encore...
Eux se sont emparés aussi de la
Dreyfus. Bien sûr. Soral a réédité un certain nombre de textes qui m'ont fait bondir, d'ailleurs, sur le blog de la CIAD dont je m'occupe. Là, j'ai fait quelques articles sur le renouveau du marketing antisémite, puisque Soral en est le meilleur représentant. Et Dieudonné s'est comparé à Dreyfus il n'y a pas très longtemps. Donc, il faudra un peu arrêter.
C'est ça qui est très surprenant. Ouais. C'est-à-dire que pendant deux décennies, c'est-à-dire après la réhabilitation, l'affaire Dreyfus tombe dans un oubli relatif. Ouais. Et c'est dans les années 30 qu'elle va ressurgir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle va ressurgir quand l'antisémitisme revient
tout à fait.
En France.
Bah oui, naturellement. Sauf à un moment quand même. Et ça, c'est tout à fait intéressant à remarquer. Alors, elle ressurgit dans les années 30 aussi parce que l'Action française est là et que l'Action française se fonde sur l'affaire Dreyfus et n'existe.
Voilà.
Et puis, en fait, quand vous prenez l'Action française, le journal, jusqu'à la fin, il y a un éphémérite de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que chaque jour, à la date du jour, est donné un équivalent de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que pour eux, c'est obsessionnel. Et Maurras le dit d'ailleurs, hein, il le reconnaît complètement. C'est-à-dire que tout le combat contre la République, pour lui, s'incarne dans l'affaire Dreyfus. Donc il ne faut surtout pas arrêter l'affaire Dreyfus. Il faut qu'elle continue. Eux ont intérêt à ce qu'elle continue. Les Dreyfusards avaient intérêt à ce qu'elle s'arrête, parce que c'est bon au bout d'un moment, mais eux ont intérêt parce que c'est un fondement politique pour eux. Et alors, curieusement, c'est pendant l'occupation où là, l'affaire Dreyfus disparaît complètement. Et là, moi, je m'interrogeais beaucoup. Donc Henri Rousseau avait fait un chapitre d'un de ses livres tout à fait important, et j'ai essayé de le pousser encore plus loin. Et là, l'affaire Dreyfus n'est plus là pour plein de raisons. Déjà parce que la mémoire de l'événement a disparu. Que c'est quand même quelque chose de très allemand, et que le problème de la collaboration, c'est qu'on ne peut pas trop taper sur l'Allemagne. Donc en fait, voilà, parce que voilà, c'est une trahison au profit de l'Allemagne, etc. Et que l'antisémitisme aussi n'a pas changé de valeur, mais il s'articule différemment. Et donc on ne ressort plus exactement les mêmes propos. Et comme l'affaire Dreyfus n'est pas présente dans la mémoire collective, on a beaucoup de témoignages de Dreyfusards qui racontent à leurs enfants l'affaire Dreyfus dont ils n'ont jamais entendu parler, parce qu'effectivement elle a disparu à ce moment-là. C'est plus un repère qui est un repère utilisable. Par contre, on va le revoir dans la guerre d'Algérie avec des gens comme Pierre Vidal-Naquet qui, quand il s'engage du côté du FLN, le fait au nom du dreyfusisme en se revendiquant de Jaurès, etc. etc. Donc il y a des moments dans la résistance, par exemple, c'est Lucie Aubrac qui raconte ça, l'affaire Dreyfus était un repère pour les résistants. Et assez souvent, ils en parlaient lors des entretiens de début qui permettaient de savoir si la personne qui voulait intégrer un réseau pouvait intégrer un réseau.
Alors, juste une dernière question. Philippe Auriol, en 1994, a eu lieu la première commémoration de l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce que cela nous dit du regard de la France, en tout cas des pouvoirs publics, pouvoirs politiques, sur cette affaire ?
Qu'elle est gênée. Alors maintenant, c'est bon, ça y est. Mais 94, 98, le ministre de la Culture en 98, on peut oublier son nom, c'est pas très grave. Quand on lui avait demandé effectivement de commémorer, a simplement dit qu'il ne fallait pas réveiller les vieilles querelles françaises. Il y a une vraie gêne, mais ça, c'est très français aussi comme problème. On a beaucoup de mal à voir notre histoire. Il ne s'est toujours rien passé le 17 octobre 1961 et la guerre d'Algérie n'est pas une certitude.
Je vous remercie beaucoup d'être venu, Philippe Auriol.
Merci à vous.
Et je rappelle donc l'apparition de l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours aux éditions Les Belles Lettres, livre dont les recherches ont bénéficié du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web, radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.